La dernière partie, donc sur le parler en langue, et donc c'est Robert qui commencera et Nick qui lui répondra.
Merci. Donc le parler en langue, cette capacité miraculeuse donnée par le Saint-Esprit pour nous exprimer dans une ou d'autres langues que nous ne comprenons pas. Donc, comme j'ai déjà eu l'occasion de le citer tout à l'heure, il ne s'agit pas de parler extatique, qui n'est pas une expression biblique. Le terme extase, j'avais dit, n'est jamais associé au parler en langue dans la Bible. Et on trouve donc ce verbe existémie, d'où est dérivé le mot français extase, mais qui n'est pas employé pour ceux qui parlent en langue, mais qui qualifie leurs observateurs, leur ébahissement, leur extase, les amena à s'écrier. Que veut dire ceci? Bon, évidemment, ceux qui parlent en langue, on voit qu'ils réagissent aussi, il y a la joie. Alors, l'utilité. Alors donc d'abord, je voudrais aussi dire que dans le langage du Nouveau Testament, langue veut aussi dire langage. Vous savez que la langue, c'est un membre problématique du corps. D'après Jacques 3:8, aucun homme ne peut la dompter. Pourquoi le langage vous est-il donné? Bien, un des buts suprêmes de la langue humaine, c'est de glorifier Dieu, puis de communiquer, bien entendu. Mais glorifier Dieu. Et Romains 6, 13 nous dit « Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Alors, je voudrais citer l'utilité du parler en langue et surtout dans son utilisation pour la vie personnelle de chacun, puisqu'il est dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc, dans le cadre de l'Église, c'est limité. Quand il y a à parler en langue, il faut aussi interpréter. C'est réglementé, c'est normal. Mais le parler en langue, c'est vraiment un langage spirituel qui est magnifique, que Dieu donne. Et donc, voici quelques directions, quelques bienfaits de ce parler en langue qui devraient nous motiver à l'utiliser régulièrement. Puisque, bon, dans le pentecôtisme, il était dit que c'est le signe du baptême dans le Saint-Esprit. Et un article du christianisme au XXe siècle, tout récent, disait, mais voilà, dans les milieux pentecôtistes, ils disent, mais attention, si c'est juste le signe, alors on parle un petit peu en langue, et puis c'est fini, et après on ne l'utilise plus. En fait, ce n'est pas spécialement le signe, le baptême de l'Esprit. Et ça, il y a différentes conceptions, mais... le baptême de l'Esprit, c'est certainement au moment où l'Esprit vient en nous et nous transforme. Et ensuite, certainement, il y a quand même une réalité dans le fait d'avoir de nouvelles effusions de l'Esprit dans notre vie, ou de découvrir des choses que le Seigneur nous donne. Et là, je crois qu'il faut vraiment se réjouir. Donc, les bienfaits du parler en langue. C'est une aide dans la louange. Jésus est glorifié. Jésus a dit dans Jean 16, verset 13, « Quand l'Esprit de vérité sera venu, il me rendra gloire. » Et donc dans Acte 10, verset 46, il est dit « Car il les entendait parler en langue et exalter Dieu. » Ensuite, c'est une aide à l'intercession. 1 Corinthiens 14, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que ferais-je donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Et donc ce fameux passage de Romains 8, 26, de même aussi l'esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc il nous a dit de prier par l'intelligence, de prier en esprit, c'est-à-dire que là, c'est en langue, puisque personne ne comprend, personne ne peut dire Amen, mais nous, on peut l'utiliser. Et cela peut, cela vraiment nous aide à intercéder selon l'Esprit de Dieu. Ensuite, on est édifié. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et il faut dire que l'apôtre Paul a été très édifié. Et tout ce qu'il nous a apporté, et puis il parlait à ces Corinthiens qui, eux, se croyaient un peu supérieurs, certains, parce qu'ils parlaient en langue, et donc il les remet à leur place. Mais alors il ne dit pas, non, non, à se parler en langue, ça fait des problèmes. On laisse de côté, vous arrêtez de parler en langue, hein, on ne fait plus ça. Non, il dit, n'empêchez pas de parler en langue, et puis il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Alors, lui qui voyait Christ crucifié et ressuscité, et bien, il avait ce langage de prière. Et je crois que au travers de cela, ça, il était édifié. Donc Jude 20 et 21, « Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous en vous-même sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Alors, je suis tout à fait d'accord que prier par le Saint-Esprit peut dire qu'on prie selon l'Esprit de Dieu, et ça avec l'intelligence, mais aussi ça peut dire prier en langue. Et donc là, on se maintient alors dans l'amour et dans la foi, ce qui est très important, avec l'espérance. Ensuite, il y a ce côté rafraîchissement, et je dirais guérison. Donc c'est ce passage d'Ésaïe 28 qui est cité dans 1 Corinthiens 14. « Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiant d'un autre langage que l'Éternel parlera à ce peuple. » Ça, c'était un signe un petit peu mauvais, puisque c'était les Assyriens qui venaient chez les Israélites. Mais il y a aussi ce côté, il leur avait dit « Voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici la trêve. » Mais ils n'ont pas voulu écouter. Donc il y a une idée de repos. Et dans Jean 7, 38 à 39, Jésus dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Alors, cet aspect de rafraîchissement et de guérison, j'ai déjà plusieurs fois vu à l'œuvre. Par exemple, suite à un deuil, des personnes que je connais, eh bien, je les encourage à parler en langue. Et l'Esprit intercède en eux et puis les console. Un frère, pasteur, a eu une attaque cérébrale. Et il était hospitalisé. Et puis voilà que les infirmiers disent à sa femme, oh là là, il se réveille, mais ça n'a pas l'air très bien. Il dit des choses pas nettes, c'est pas du français. Et en fait, il parlait en langue. La femme a tout de suite compris. Et c'est ce qui lui a permis de retrouver le langage. Aussi, ça a pu contribuer, certainement. Donc, il y a une œuvre qui se fait. Et puis aussi, cette question de direction que Dieu peut nous donner. 1 Corinthiens 14, verset 13. « C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement ?» Alors, donc je mets ces deux versets ensemble parce que quand on prie en langue, il nous a dit demander aussi l'interprétation. En général, on ne la comprend pas pour soi-même, mais si on est en assemblée, c'est très important qu'il y ait l'interprétation. Et voilà que lorsque, par exemple, on prie pour une personne, eh bien, on peut aussi, doucement, comme ça, murmurer en langue, et puis dire, Seigneur, si tu as quelque chose à me dire, si tu as une pensée à me donner pour cette personne, et cela peut donner des directions. Et puis, j'ai encore quelque chose à aborder. Il est dit de parler en langue, mais aussi de chanter en langue. On peut chanter individuellement et aussi en assemblée. Alors, ça c'est aussi une force d'édification à ne pas négliger, parce qu'une unité se produit dans le corps de Christ. Et bon, il est dit, soyez remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc là, les chants spirituels, que signifie-t-il? Ça se dit hodais pneumatikais. Hodais, c'est chant, les odes. Et pneumatikais, c'est de nouveau bien, au sujet des pneumaticaux dont on parlait là tout à l'heure. Et certainement, ça peut représenter aussi autre chose, mais je crois qu'on peut vraiment le mettre aussi en rapport avec les chants en de nouvelles langues. Voilà. Donc, il y a de nombreuses bénédictions attachées au parler en langue, et je crois que c'est bien de dire, Seigneur, je suis prêt aussi à être dans cette dimension. Et de vivre cette dimension, c'est une bénédiction.
Je vais diviser ce que je dis en deux parties. D'abord, quelques mots sur les Actes des Apôtres, et ensuite sur 1 Corinthiens, parce qu'il n'est pas évident de lier ces deux endroits du Nouveau Testament aux questions des langues. D'abord, dans les Actes, la glossolalie est une attestation que l'esprit prophétique des derniers jours a été répandu. C'est-à-dire que nous nous trouvons à un moment clé de l'histoire du salut, la promesse à Abraham commence à se réaliser, la bénédiction des nations commence à se mettre en place à cause de la venue du Messie et de l'Esprit. Et donc l'Esprit atteste la présence de cette nouvelle alliance. Et petit à petit, l'Église comprendra que l'Évangile est pour tous et non pas seulement pour le peuple juif. Et chaque fois que l'Évangile fait un pas de plus, hein, vers les Samaritains dans le chapitre 8, ensuite vers Cornée et les païens dans le chapitre 10, le Saint-Esprit se manifeste de façon visible, comme s'il fallait convaincre les premiers chrétiens que Dieu aimait vraiment toutes les nations. Dans Acte 2, ce n'est pas tout le monde qui parle en langue. Ce n'est pas la foule qui parle en langue. Donc, verset 4, ils furent tous, mais ce n'est pas la foule, remplis d'Esprit Saint, se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ici, le parler en langue n'est pas un phénomène de son ou de bruit incompréhensible. Justement, c'est le contraire. Le don du Saint-Esprit permet la compréhension. Dans 2, 5 à 8, vous verrez, chacun les entendait parler sa propre langue. Ils comprenaient. Tous, tant juifs que prosélytes, crétois, arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Théologiquement, nous voyons ici la venue de la nouvelle alliance promise et un début du renversement de la tour de Babel. À Babel, on ne se comprend pas. On est dispersés, séparés. Avec la venue du Saint-Esprit, les hommes séparés commencent à se comprendre. Notons aussi que la foule ne parle pas en langue. Il n'est pas dit que les 3000 personnes converties, baptisées ce jour-là, parlent en langue. Il n'est pas dit non plus, on ne le trouve pas, que ceux qui ont parlé en langue continuent à parler en langue. Le phénomène des langues n'est pas non plus lié à d'autres conversions dans le livre des Actes, y compris la conversion de l'apôtre Paul. Je reviens maintenant à Corinthe. Ça semble être un phénomène différent. Là, les spécialistes ne sont pas tout à fait d'accord, mais justement à cause de la nécessité de la traduction. C'est-à-dire, quand la glossolalie se produit à Corinthe, on ne comprend pas. Or, nous savons que ce phénomène de glossolalie est quelque chose qui ne se limite nullement au cercle chrétien. Dans d'autres religions, d'autres cultes, on trouve le phénomène des gens qui parlent avec des sons et des mots incompréhensibles. Donc ce n'est pas un fait exclusivement chrétien. Et à l'époque des Corinthiens, on trouvait ce phénomène dans les religions à mystère, dont la marque propre était l'aspiration à notre communication directe avec les dieux. Et ces formes religieuses étaient florissantes à Corinthe. Et c'est justement le problème que doit traiter Paul. Car lorsqu'on vient à la foi chrétienne, on apporte son arrière-plan. Et les Corinthiens apportaient cet arrière-plan de culte où il était question de glossolalie. D'ailleurs, dans le verset 2, Paul dit « Quand vous étiez païens, il rappelle de là où il venait. » Il est probable que les charismes à Corinthe ressemblaient aux autres cultes à mystère qui se trouvaient aussi à l'époque et dans la ville de Corinthe. Ils apportaient cette aspiration qui existait dans d'autres cultes. Dans les cultes païens, on perdait le contrôle de ses facultés et on laissait agir en soi des esprits. Par exemple, la prêtresse de Delphes s'agitait avec des convulsions lorsqu'il était question de parler en langue. Et donc, certains chrétiens corinthiens venaient de tel arrière-plan. Et Paul essaie de cadrer cette expérience avec la réalité de l'Évangile. Donc, il ne nie pas le phénomène. Mais il ne dit pas qu'il ne faut pas le faire. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Il dit même que je parle plus que vous en langue. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait penser, si on lit de près ces chapitres, Paul critique et relativise le phénomène des langues. À la limite, son discours appartient au registre de la concession. Il recommande positivement le don de la prophétie, mais il se sent obligé de réglementer, de réguler la pratique du parler en langue. Apparemment, il considérait, Corinthe, au moins certains, considéraient le don de langue comme étant plus important que la prophétie, et Paul leur dit non. C'est d'abord la prophétie qu'il faut aspirer. Il reconnaît le parler en langue comme un don de l'esprit. Il reconnaît son utilité comme prière individuelle et pour l'assemblée si il est interprété. Donc, il remet en cause la conception corinthienne sur des points importants. Le parler en langue est un don, mais ce n'est pas le don le plus important. Il se trouve parmi d'autres dons. Et quelque part, il met une limite très importante, surtout au niveau de l'Assemblée. Si ce n'est pas compréhensible, si ce n'est pas interprété, il n'est pas à utiliser. Donc, loin d'être un texte qui met en avant la glossolalie, un Corinthien la critique, au moins critique une certaine conception, la relativise en le plaçant dans un contexte où les dons ont comme fonction d'édifier la communauté chrétienne et non pas d'être source d'une spiritualité qui se place au-dessus des autres. Cette semaine, j'ai trouvé un texte d'Anabaptiste écrit à Strasbourg en 1531. Je ne savais pas où le placer dans mon discours, donc je vais simplement terminer avec ce texte écrit par Pilgrim Harpeck à Strasbourg. qui replace dans le contexte de l'Église, de l'ecclésiologie, cette question des dons spirituels. Donc je crois que vous l'avez devant vous, et je vais le lire, je l'ai traduit très rapidement, donc vous vous excusez, il n'est pas d'un point de vue littéraire très, très poli. Paul affirme que tout nous a été donné par le Christ à travers la foi en lui, pour que le pied ne se présente pas comme un œil ou la main comme un pied. Avec zèle et de manière intensive, chacun doit découvrir et tenir compte de cela pour lui ou elle-même, dans la crainte de Dieu, pour que l'œil ne travaille pas sans le pied ou la main, ou que le pied ou les mains agissent comme s'ils n'avaient pas Dieu. Le Christ demande l'unité de la foi et le rassemblement des membres dans le lien de l'amour. Ainsi, il prie le Père pour les siens, pour qu'ils restent un en lui, comme lui est un avec le Père. Et puis, cette section que je trouve très intéressante, dans ses membres unis, Dieu est tout en tous. Mais Dieu le Père ne se trouve pas de manière complète dans aucun des membres du corps du Christ, ni dans un membre unique et isolé. Au contraire, il est tout en tous lorsque les membres se retrouvent rassemblés sous la tête et unis par son esprit qui, lui, compense tout échec ou manque en eux. Si le pied n'a pas d'œil, il en reçoit dans cette union. De même que l'œil reçoit un pied, une main, des oreilles et tout membre corporel.
On peut quand même prendre quelques petites minutes pour des questions pas trop longues, s'il y en a, sur le parler en langue.
Oui.
Une question pour Robert concernant les chants en langue que tu as mentionné à partir de l'épître aux Colossiens, les chants spirituels que tu interprètes en disant que ça désigne aussi le chant en langue. C'est juste ?
Oui.
Ma question est la suivante. Comment harmoniser ça avec ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 14 de la nécessité d'interpréter de manière compréhensible le parler en langue, ce que nous vient de dire. Si le chant en langue commun n'est pas interprété, comment tu mets ça en rapport avec la nécessité que Paul dit de savoir être compréhensible dans la communauté, peut-être un tel de parler en langue.
Voilà, donc la question par rapport au chant en langue et le lien fait par Robert avec l'épître aux Colossiens, comment harmoniser la question du chant en langue avec l'exhortation de Paul que le parler en langue doit être interprété et compréhensible dans l'assemblée.
Effectivement, si une personne chante en langue, bien, c'est bien qu'elle puisse l'interpréter. Et parfois, certains sont un peu artistes et ça peut même donner un nouveau cantique. Et c'est une bonne chose si elle peut interpréter ce chant. Mais si, dans une assemblée, comme cela se fait dans les milieux charismatiques, on est tous charismatiques, on dépend tous de la grâce de Dieu, mais bon, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, si plusieurs dizaines de personnes, par exemple, chantent en de nouvelles langues, elles vont peut-être avoir dit, bon, il y a une harmonie, mais comment est-ce qu'on veut interpréter tout cela? C'est pas trop possible. Donc, effectivement, il arrive qu'après ces moments d'adoration et de louange, eh bien, il y a une prière qui s'élève et qui est vraiment une louange à Dieu, et ça peut être l'interprétation. Mais aussi, il peut y avoir des paroles d'encouragement prophétique qui viennent à ce moment-là et qui sont peut-être aussi une réponse à cette louange qui a été donnée à Dieu. Donc, voilà, c'est la réponse que je donnerais. Je ne sais pas si ça peut te satisfaire, mais...
Disons qu'il y a plusieurs parlées en langue. En même temps, tu fais le même,
oui,
même chant en commun. Donc, dans ta réponse, tu estimes que il y a comme une interprétation générale de la multiplicité des différents parlés en chant en langue. Je souligne ça, une interprétation générale pour pluraliser personne prononce les mêmes paroles.
Oui. Voilà, donc Michel relevait que c'était donc une interprétation générale de plusieurs personnes qui chantaient en langue, donc c'était dans ce sens que Robert est venu.
Monsieur, la recommandation de l'apôtre Paul dit donc s'il n'y a pas d'interprétation, il vaut mieux se taire. Quand on lit ça, on se dit ouais, mais en fait, dans la pratique, une fois que la personne a parlé en langue, on ne peut plus rien faire. La langue a été parlée. Hein. Et donc, cette recommandation de l'apôtre Paul pose une question pastorale qui, je pense, intéresse chaque responsable. C'est donc, au niveau pastoral, comment est-ce qu'on fait lorsque, effectivement, on est dans une situation où quelqu'un parle en langue, le pasteur se lève, est-ce que quelqu'un a une interprétation à donner? Personne ne donne d'interprétation, et donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on procède par la suite? Ou bien alors, est-ce que le pasteur donne une interprétation? Si le dimanche suivant ou la prochaine réunion, on a de nouveau quelqu'un qui parle comme ça, et puis on n'a pas d'interprétation, qu'est-ce qu'on va faire par la suite?
Non, je ne sais pas exactement ce qu'on fera. Dans un premier temps, je te propose de noter ta question sur un papier.
Non, ça m'intéresse de savoir ce que...
Oui, c'est plutôt une question de fond qui touchera finalement, je pense, au débat qu'on aura justement sur comment faire, comment gérer justement un certain vécu des charismes. Donc c'est pour ça que, parce que si ça serait trop long, je pense, de répondre là en une minute. Mais on reprendra la question.
Oui.
Oui, je crois qu'il est entendu pour chacun d'entre nous, à la porte, le don des langues, le parler en langue étaient des langues connues, qui étaient le crétois, l'arabe. Donc, est-ce que aussi, dans ce que l'apôtre Paul parle, le don des langues, est-ce que c'est vu de la même façon, ou il y a quelque chose d'explicite qui nous dit que c'est parler en langue que personne ne connaît.
Voilà. Y a-t-il vraiment quelque chose dans les paroles de l'apôtre Paul qui dit clairement qu'il s'agit d'un autre don, disons, d'autres langues que celles qui étaient compréhensibles de la Pentecôte?
Il me semble que oui, puisqu'il s'agit de sons incompréhensibles. Qui ne semble pas être le cas de ce qu'on voit dans le livre des Actes.
Mais ce n'est pas dit que ce sont des sons incompréhensibles, que c'est du charabia ou que c'est une maladie psychiatrique. Je sais pas. Non, ça, tu n'as pas dit, bien entendu. Mais comme dit, c'est des langues connues. Il y a 6000 langues, je crois, dans le monde. Donc, il y a déjà des psychologues et des linguistes qui ont pris des exemples. Alors, on leur met un parler en langue, puis on leur met quelque chose d'inventé. Bon, ils n'arrivent pas trop à voir, mais il faut aussi dire qu'ils ne savent pas vraiment. Ils ne connaissent quand même pas toutes les langues, ce n'est pas possible. Hein. Et je pense que le mot langue veut aussi dire langage dans le grec, et que donc par là, c'est vraiment des langues. Alors, il y a des exemples, de temps en temps, c'est compris. J'ai lu aussi un livre très intéressant, dans lequel il y a plusieurs exemples, et j'ai entendu plusieurs exemples déjà. Donc, c'est Jack Hayford qui a écrit « Le langage spirituel » aux éditions Vida. Et il voyageait en avion, puis il était, juste pour dire cette histoire, il était à côté d'un monsieur, et puis alors il se présente, il est pasteur, et puis l'autre dit « Ah, moi je ne suis pas intéressé par les choses de la foi. » Et puis il lui a dit qu'il était indien d'origine. Et bon, d'accord. Et puis le Seigneur lui met à cœur « Tu pourrais essayer ton parler en langue devant lui. » Et non, c'est un Seigneur, je ne peux pas faire ça, il va me prendre pour un bizarre. Et puis, à la fin, quand même, il a dit, écoutez, je voudrais juste tester quelque chose. Hein. Vous me dites, je voudrais vous dire des mots dans une langue, mais vous me dites si vous comprenez quelque chose. Et puis il s'est lancé. En fait, c'était un parler-langue qu'il n'avait pas habituellement. C'était quelque chose d'autre. Et eh bien, l'autre, il a dit, oui, oui, vous avez parlé de Jésus qui nous aime. Et donc, après, il a été touché et il lui a laissé de la littérature. Par la suite, il n'a pas eu plus de réponses. Bon. Alors, personnellement, je pense que ce sont des langues véritables. Maintenant, donc, il y a donc quelques exemples qui tendent à le prouver. Voilà.
Voilà. Alors, peut-être une dernière question, si c'est pas trop.
Une question pour cet après-midi, mais quel intérêt alors?
Voilà. Je propose, oui, qu'on la repousse cet après-midi. Donc, l'intérêt de parler une langue qui existe peut-être, mais que personne ne connaîtrait.